Mathias, bon après-midi. Il fait magnifiquement beau ici à Montréal. Fin de semaine de Grand Prix, il y a beaucoup d'ambiance. Comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi?
Je me porte à ravir. Écoute, c'est
une forme d'être sur place.
Oui, oui, deuxième et dernière pour l'instant. C'est pas ce que l'avenir nous réserve. Je parlais d'une bombe dans la Ligue nationale de hockey, mais c'est une bombe annoncée que la fin de l'association de Mitch Marner avec les Leafs. Quelles seront les conséquences à Toronto, par exemple? On peut s'interroger.
On s'en doutait, et là, ça semble confirmé. Pour moi, c'est une bombe qui va faire des dégâts aussi, parce qu'on a beau lui reprocher beaucoup de choses à Marner, on aurait aimé ça qu'il soit plus productif en série. Toronto ne peut pas le remplacer. Je sais qu'on rêvait probablement d'utiliser cet argent-là pour peut-être convaincre Sam Bennett de venir à Toronto, qui aurait probablement pas été un bon contrat. Là, d'après les échos qu'on a, Sébastien, Bennett risque de rester en Floride, peut-être 8 millions, 8 ans. Et là, tu remplaces Marner par qui? Tu sais, ton marché des joueurs autonomes après Bennett, c'est plus mince. Fait que c'est un gros morceau à l'attaque que tu peux pas remplacer. T'as pas beaucoup d'atouts pour un échange non plus, parce que là, t'as tes joueurs actuels. Tu t'es déjà départi de tes choix de premier tour, je pense que c'est pour les 3 prochaines années. Puis, c'est pas un reproche que je fais aux Maple Leafs. Ils étaient pris dans une situation un peu impossible. Parce que tu veux gagner, tu veux enfin avoir du succès en série. Marner veut pas négocier dans l'année, alors t'es coincé. Tu le gardes, t'espères faire un bout de chemin, et là t'es éliminé, reviens pas, t'es à court d'options. Un peu comme Columbus, le fameux coup de poker de Kekalainen il y a quelques années, ben tu te retrouves, évidemment, t'as l'odieux si t'échanges Marner au cours de la saison, et là t'as l'odieux si tu l'échanges pas, puis tu le perds sans rien obtenir en retour. Je me demande vraiment comment on va compenser sa perte à Toronto, à moins qu'on concentre vraiment ses énergies à aller chercher peut-être un joueur à une autre position. On change le style de jeu. Ça, pour moi, je vois pas ça d'un œil très positif pour les Maple Leafs de Toronto.
Jimmy, il va d'une suggestion que je trouve, bon, peut-être envisageable. Est-ce que les Leafs pourraient s'entendre pour 8 ans, par exemple, avec Marner et l'échanger par la suite?
C'est plutôt rare que ça arrive. Et quel est l'intérêt pour Marner?
Absolument. Donc, je comprends ton point, surtout qu'il a vraisemblablement fait savoir qu'il ne veut plus rien savoir d'eux autres. Alors, pourquoi aller signer une autre entente?
Parce que s'il signe à Toronto, ben là, il est... c'est plus lui qui décide de son destin. Alors que là, en testant le marché des joueurs autonomes, il fait ce qu'il veut. Fait que pourquoi faire cette faveur-là aux Maple Leafs? Je pense qu'il n'y a aucun intérêt.
Nico nous dit, regardez bien, ils vont aller chercher Stamkos.
Aïe, aïe, aïe. Ben, ça serait une bien mauvaise idée. Parce que Stamkos est rendu, je suis en train de regarder sur Puckpedia pour avoir les... il y a au moins 35, là. Il y a eu 35 où il va avoir 35. Stamkos, 35 ans. Il reste encore 3 années de contrat à 8 millions par année. Ça serait un désastre. Un désastre. Puis Tampa, dans le génie de Brisebois et de Mathieu Darche à l'époque, et ça prenait de l'audace, ça prenait du courage pour dire à son capitaine, à son joueur qui est là depuis le début, on te gardera pas. Et eux, ils avaient un marché plus favorable parce qu'il y avait Gunzel qui s'en venait. Est-ce qu'ils ont eu oui dire qu'ils pouvaient le mettre sous contrat? C'est une situation où là, c'était favorable. Si Toronto parvenait à sortir un lapin de son chapeau comme ça, ça serait bien. Mais Nashville se retrouve avec un Stamkos qui improductif, surpayé. Et Tampa rajeuni de 4 ans avec Gunzel qui remplace Stamkos.
Je veux te poser une question parce qu'on parle beaucoup de pêche aux défenseurs gauchers à Montréal. Mais est-ce que ça prend un défenseur gaucher défensif avec les Canadiens?
Bien, tu sais, il y a plusieurs rumeurs, puis ça m'a donné, ça m'a éveillé quelque chose. J'ai vu que les Rangers peut-être regarderaient du côté de Gavrikov ou de Provorov sur le marché des joueurs autonomes. Puis évidemment, les rumeurs semblent sérieuses avec Nicholas Haig de Vegas, le défenseur de 6 pieds 6 pouces. Il faut garder en tête que c'est pas impossible qu'on échange Mike Madison. Et là, je sais qu'il a rencontré la direction du Canadien à Buffalo, pendant au moins une heure et demie la semaine dernière.
Ouais.
Est-ce que c'est pour essayer de lui faire accepter un contrat à rabais? Est-ce que c'est pour lui dire « on va peut-être t'échanger, mais on t'aime ». Je pense que Madison a une valeur. Et on vient de parler de Mitch Marner. Est-ce que le Canadien veut se retrouver dans une situation à la date limite des échanges, en position pour participer aux séries éliminatoires, et devoir peut-être échanger Madison pour pas se retrouver les mains vides comme Toronto vient de vol-vivre avec Marner? Si tu n'échanges pas Madison cet été, faut que tu le mettes sur contrat à long terme. Parce que tu te retrouves dans une situation impossible. Toronto n'aurait pas pu échanger Marner à la date limite des échanges. Colorado l'a fait avec Rantanen. Tu sais, c'est déjà mieux que... Je sais que Rantanen les a battus, mais au moins, tu as certains actifs. Alors, Madison, pour moi, je garde un œil et je me dis, si on ne lui donne pas de prolongation de contrat, ça se peut qu'on l'échange, d'autant plus qu'on dit que les Canadiens peuvent facilement avoir un choix de premier tour, peut-être dans les 20 premiers pour lui. Alors, d'aller chercher du renfort comme un gars comme Haig, sur une troisième paire avec Hudson et Goulet dans les deux premières paires à gauche. Et ça peut être intéressant. Puis, il y a quelques semaines, j'avais fait un article sur les joueurs autonomes, justement, à la QV 2024. On dirait que tous les liens s'enchaînent facilement aujourd'hui.
Ouais.
On regardait les attaquants comme Stamkos, comme Marchessault, qui a été pas si mal non plus, et Lindholm, ça n'a pas fonctionné à Boston. Et les joueurs pour qui ça a marché, ben c'est les défenseurs plus défensifs comme Matt Roy, comme Pêché, comme Zadorov, qui te coûtent moins cher. Donc, c'est des dépenses un peu plus profondes, des dépenses qui t'amènent de la profondeur, mais qui sont moins coûteuses. Puis les défenseurs, on le sait, ça vieillit mieux généralement. Ils restent bons dans la trentaine, alors que pour les attaquants, rendus à 33, 34 ans, des fois, sauf exception, là, on le voit avec Brad Marchand puis Crosby, mais ça peut casser, malheureusement, désolé de l'expression, un peu plus rapidement. Fait que pour le Canadien, peut-être qu'un peu de profondeur en défense, ça pourrait être intéressant et ça te permet d'amasser des actifs supplémentaires pour Madison.
Je sais que c'est plate. Tu sais,
un gestionnaire, il doit analyser ça froidement. On le sait que Madison est un super joueur. C'est pas qu'on l'aime pas. Il rend des services extraordinaires aux Canadiens. Puis à un moment donné, c'est plate, mais il faut y aller à calculateur froid puis se dire qu'est-ce qui est mieux pour l'organisation.
Le mieux, c'est toujours trouver de la profondeur sans avoir des poches trop profondes.
Ouais.
On a un néologisme qui est apparu dans la Ligue nationale de hockey dans les dernières années, la capologie, c'est-à-dire des spécialistes pour faire la gestion et s'assurer que l'équipe demeure sous le plafond salarial. Mais il y a certaines équipes qui ont quelques difficultés à ce chapitre, nommément les Oilers d'Edmonton. Mais pourquoi les Oilers sont toujours coincés par le fameux plafond salarial, Mathias?
On regarde les équipes comme Tampa. Les équipes comme Boston, ils ont tout le temps, ils ont eu le don de trouver des perles après le premier tour. Puis c'est important, moi, j'y crois encore, aux reconstructions, quand tes meilleurs joueurs, tu vas les chercher parmi les premiers. tu regardes à Edmonton, évidemment, là, en ce moment, ça va. Drysdale, McDavid, Barkov en Floride, évidemment, ils ont pu aller chercher Tkachuk, mais parce qu'ils avaient Huberdeau qui a été choisi troisième. Tampa avec Edmund, il y a eu Stamkos pendant un bout. Fait que McKinnon au Colorado, t'es meilleur, ils sont repêchés dans les premiers, mais ça te prend plus. Et tu regardes l'exemple de Tampa, justement. Ils sont allés chercher Kucherov en fin de première. Ils sont allés chercher Braden Point au troisième tour. Ces choix-là leur permettent d'avoir cette profondeur-là nécessaire. Et ça aide énormément, ça évite des maux de tête. Tu peux t'en sortir, mais ça t'évite des maux de tête aussi. Chez le Canadien, Lane Hudson est un bon exemple. Fin de deuxième tour, c'est inespéré d'aller chercher un gars comme ça en fin de deuxième tour qui devient ton meilleur défenseur offensif. Puis à Edmonton, quand tu regardes le repêchage, ben c'est que tout tourne autour, évidemment, de McDavid, Dreisaitl, puis à la limite Nugent Hopkins. Bouchard, qui était un top 10, qui a été choisi au 10e rang aussi, mais dans les rondes suivantes au repêchage, ça a été très faible. Fait que c'est là que le problème réside. Si tu as vraiment un recruteur de génie, je pense que les Ducks, éventuellement, avec leur reconstruction, dans les prochaines années, ils sont allés chercher beaucoup de gars un peu plus tard, les Tristan Luneau et tout ça. Les Stars de Dallas, évidemment, en ce moment, ont perdu la demi-finale, mais s'ils arrivent à se régénérer année après année, ben c'est à cause des Jason Robertson au deuxième tour, des Harley, des Liane Michel, des Oettinger qui ont réussi à repêcher en fin de premier tour. Fait que ça aide énormément quand tes recruteurs te donnent un coup de main.
J'en connaissais un recruteur pas si mal avec les Ducks d'Anaheim à l'époque, c'était Alain Chenier. J'ai maintenant le bonheur de travailler avec lui. Alain a frappé quelques coups de circuit dans sa carrière. Mathias, je ne sais pas si on aura l'occasion...
Écoute, ça a été son chef-d'œuvre.
Oui, absolument. Je ne sais pas si on aura l'occasion de se reparler à la radio, mais j'espère pouvoir te croiser à un événement sportif cet été. Merci beaucoup de ta collaboration et encore une fois, merci pour les bons mots que tu as eus à mon endroit plus tôt cette semaine.
Ah, ben écoute, c'est bien mérité. Merci, Sébastien.
Bon été à toi. C'est parti officiellement avec le Grand Prix ce week-end. Bye-bye, à bientôt.